Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 66, exprimé 66, majorité à 34, pour 46 contre 20. La proposition de loi est adoptée.
Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Le 28 mars dernier, l'Assemblée nationale française a approuvé en première lecture une proposition de loi sur le secret des affaires. Quelques jours plus tôt, un collectif d'associations et de sociétés de journalistes avait pourtant mis en garde nos élus contre les dangers de ce projet qui pourrait ajouter de nouvelles difficultés à celles et ceux qui font des révélations d'utilité publique sur les pratiques illégales ou immorales de certaines entreprises. Le texte, s'il est adopté, compliquerait inutilement la vie de ces héros discrets et si utiles que sont les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, dans l'atelier, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme qui a choisi de révéler les secrets délétères de son entreprise.
James Dunn est un Irlandais installé depuis 24 ans à Paris. Il y a encore 6 mois, il travaillait pour Cosmos, une société française d'informatique qui a créé une technologie hyper perfectionnée. Une technologie capable de surveiller et d'analyser avec précision des nations entières via Internet. Le tout en temps réel. C'est ce bijou de surveillance massive qu'a vendu leur partenaire français Amesis au colonel Kadhafi. Une arme numérique idéale pour traquer les opposants du régime. Pendant des années, James rédige en anglais les modes d'emploi de ces systèmes, sans jamais en connaître les destinataires.
James Dunn, citoyen et lanceur d'alerte, c'est une émission de Léo Caravagna et Simon Decreuse pour l'atelier des médias.
Bonjour, je suis James Dunn. Je suis de nationalité irlandaise et je vis en France depuis 28 ans. Je suis ce que certains appellent lanceur d'alerte, auquel je préfère le terme citoyen qui a lancé une alerte. Ce n'est pas un métier, on n'est pas formé pour les situations dans lesquelles on se trouve. On agit avec sa conscience, avec ce qu'on croit être la chose à faire, avec son naïveté aussi, avec son intégrité de citoyen. Donc, on parle des êtres, des citoyens qui se trouvent malgré eux dans des situations, des sortes de failles de notre société, des failles critiques, que ce soit un Chelsea Manning qui se trouve devant la réalité de certaines exactions de l'armée américaine, que ce soit Edward Snowden qui se rencontre de l'étendue de la surveillance de la NSA et qui met en péril les fondements même de nos démocraties. Et donc, je suis un simple citoyen, comme vous, qui s'est trouvé dans une situation particulière à un moment donné de sa vie. On se donne beaucoup de mal pour traverser l'épreuve que cela représente et aussi pour tourner la page, puisqu'il y a peut y avoir un piège aussi où on se trouve dedans, on n'arrive pas à s'en sortir, c'est souvent le cas. Bien sûr, il faut témoigner, il faut donner un sens à son acte, d'où l'intérêt des entretiens comme celui-ci ou dans la presse ou les médias en général. En fait, j'ai commencé chez Cosmos, qui est une entreprise spécialisée en Deep Packet Inspection, qui est l'inspection en profondeur des paquets numériques qui sont mis en jeu lors de toute communication numérique. J'ai commencé en 2005 et en 2007, j'ai alerté, pas sur des faits constatés, mais j'ai alerté lors d'une... Nous avons eu une réunion d'entreprise en octobre 2007 pour sonder un peu l'état d'esprit des employés de l'entreprise, puisque nous avons commencé à cette époque à travailler sur des programmes qui étaient plutôt de l'ordre de la surveillance. Et ce changement d'orientation suscitait des questionnements parmi nous, parmi mes collègues. Et donc, il y a eu une invitation à une réunion où il n'y avait pas de questions taboues. En réponse à cette invitation, j'ai envoyé un courrier dans la foulée, dans l'heure qui suivait, et j'ai mis toute l'entreprise en copie. On était une petite quarantaine à l'époque, où je posais des questions d'ordre éthique par rapport à notre activité et par rapport aux dangers, aux possibilités d'abus de ces technologies entre les mauvaises mains. Et c'était ma première alerte. Et donc, c'était la première fois où je prenais une position éthique au sein de l'entreprise par rapport à nos activités. J'étais à l'époque la seule personne à mettre en mots et clairement, ouvertement dans l'entreprise, ce genre d'inquiétude et questionnement. Donc, c'est à ce moment-là que, pour moi en tout cas, cette alerte a commencé.
Est-ce qu'on peut juste revenir un petit peu avant et expliquer ce que faisait Cosmos avant déjà qu'il y ait cette première alerte interne, et juste vulgariser un petit peu plus comment ça marche le Deep Packet Inspection et pourquoi c'est important?
En 2005, Cosmos, on était en fait, 23 personnes, stagiaires et commerciaux compris. Donc une toute petite équipe issue de fondée par des personnes issues de GSIE Paris 6, le laboratoire d'informatique de Paris 6 qu'on appelle l'IPSIS. À l'époque, en 2005 en tout cas, on proposait un produit assez banal de monitoring aux entreprises et aux opérateurs pour mieux gérer leurs ressources Internet, pour mieux savoir l'usage qui a été fait de leur réseau, afin de pouvoir facturer leurs clients, par exemple, pour vous facturer votre activité de téléphone portable. Il faut savoir ce que vous faites avec, sinon on ne peut pas vous facturer. Sauf qu'à l'époque, ces informations étaient anonymisées, et donc, on n'est pas dans un cadre de surveillance, on est dans un cadre de monitoring d'entreprise ou au niveau des opérateurs. En 2007, Cosmos a commencé à travailler avec les renseignements français. Et donc, nous avons eu des demandes par l'État français qui changeait de nature. On avait une demande l'été 2007, par exemple, fausser certains résultats de recherche sur Google, par exemple. Donc là, on touche à l'intégrité de Internet. Donc c'était dans ce cadre que cette réunion en octobre 2007 a eu lieu. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai posé très clairement les questions concernant nos activités, concernant notre positionnement éthique. Est-ce qu'on avait un code de conduite éthique? Et je demandais très clairement, est-ce que si un pays qui effreint les droits de l'homme nous propose un gros contrat, que faisons-nous? Et donc, à l'époque, le président du directoire de Cosmos, Thibaut Bechtoil, nous a rassuré qu'on était une entreprise éthique, qu'on avait une code éthique, et que, bien sûr, on ferait jamais de telles choses. Donc, nous, on l'a rassuré, octobre 2007.
J'ai demandé à James de retrouver le courriel qu'il avait écrit à son patron, Thibaut Bechtoil, et à ses collègues. À l'époque, il ne sait pas encore si la technologie de Cosmos est utilisée par des régimes dictatoriaux. Il sait en revanche que le DPI, l'inspection profonde de paquets numériques, est un outil redoutable pour surveiller les internautes.
J'ai envoyé ce courrier le 24 octobre 2007. Nous travaillons dans un secteur de pointe où les questions d'extraction et d'interception des données, alors que les raisons et les fins de telles activités soulèvent souvent des questions d'ordre éthique. L'utilisation de la technologie Cosmos à des fins de fichage et d'interception posait également des questions d'ordre éthique. Fichage et interception d'acteurs dits dissidents, opposants au régime, défenseurs des droits de l'homme, simples militants, etc. Quelle est l'attitude de Cosmos et l'attitude de ses investisseurs devant de tels scénarios? Si le gouvernement d'un régime qui freine certains droits ou valeurs considérés comme universels nous propose un important contrat, à quelles valeurs et exigences se tenir? Quel est alors notre code de conduite éthique? Je vais aller très rapidement à l'année 2011. Mes ennuis en 2011 ont commencé non pas avec des révélations, mais il y a eu en février 2011 un entretien vidéo avec Thibaut Bechtol, le PDG de Cosmos, et les journalistes de Reflet.info sur un site collaboratif qui s'appelait TikTok.tv. Et les journalistes posaient des questions très claires à Thibaut Bechtol, qui rappelait un peu mes questionnements de 2007, c'est-à-dire est-ce que vous vendez des produits de surveillance à des dictatures?
Bonjour, merci de nous rejoindre. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thibaut Bechtol. Donc vous, contrairement à Cisco, dont on a reçu le directeur général ici, vous assumez la responsabilité de ce qui pourrait être fait de vos technologies?
On assume la responsabilité, on fait en sorte, si vous voulez, que... Enfin, nos clients traitent le cadre juridique particulier, d'accord? Et effectivement, les clients doivent traiter, effectivement, soit se conformer à une législation, soit prendre des décisions d'éthique sur ils font ou ils ne font pas.
Alors, je vais reposer ma question. Vous assumez la responsabilité de l'usage qui est fait de vos technologies?
Je pense qu'aujourd'hui, nos technologies sont utilisées pour des cas d'application qui sont utiles à l'entreprise ou aux opérateurs. Absolument.
Je vais reposer ma question. Vous assumez la responsabilité des usages qui est fait de vos technologies?
Je suis pas sûr de... Enfin, si le sujet...
C'est pas très compliqué comme question. Est-ce que vous assumez la responsabilité éthique, morale, juridique, comme vous voulez, même les trois en même temps, tant qu'à faire, des usages qui sont faits de vos technologies?
Alors, nous gérons juridiquement et nous regardons d'un point de vue éthique pour faire en sorte que les technologies soient utilisées dans des cadres qui sont effectivement conformes à la juridiction et à l'éthique.
J'ai mis le lien sur ma page Facebook. Le titre de l'article s'intitulait « Le DPI est-il une arme ?» Et le lendemain, c'était le 22 ou 23 février 2011, le lendemain, nous avons eu... je suis arrivé au bureau, donc comme d'habitude, à 9h30, le directeur de communication de Cosmos m'appelle, il me dit « Vous avez mis un lien sur votre page Facebook hier soir, j'aimerais que vous le supprimiez. » Et j'ai eu ce moment de... J'aurais pu dire oui, désolé, et j'ai dit non. Cette question, je la trouve légitime. Après cet appel téléphonique, j'ai dit que je considère, et j'ai considéré à l'époque, les accusations infondées, mais que les questions avaient le mérite d'être posées. Et que je ne supprimerai pas ce lien. Le jour même, l'après-midi, nous avons eu une réunion de crise avec l'ensemble de l'entreprise où on nous explique que Cosmos travaille déjà avec une entreprise spécialisée dans la gestion des crises. Et en nous donnant des conseils pour ne pas répondre aux journalistes, pour ne pas se faire piéger si on vous pose des questions dans l'ascenseur, etc. Ce genre de réflexion. J'étais l'exemple lors de cette réunion à ce qu'il ne fallait pas faire. Et de manière un peu têtue, je refusais toujours de supprimer ce lien et qui montrait cet entretien un peu gênant. Donc, à partir de ce jour-là, je ne pouvais rien faire de bien dans l'entreprise et il y a eu une forme d'harcèlement au sein de l'entreprise avant même d'apprendre que ces accusations continues dans ces questions n'étaient pas du tout infondées.
Et sur la Libye, M. Kadhafi sait parfaitement ce qu'il faut faire pour que la paix revienne. Après 41 ans de dictature, il est peut-être temps d'arrêter. Qu'il quitte le pouvoir, ça ne dépend que de lui.
Le printemps 2011, c'était aussi le printemps arabe. Et il y a eu beaucoup de mouvements et d'informations commençaient à filtrer dans la presse par rapport aux activités de surveillance des entreprises occidentales. Et le 30 août 2011, j'ai appris comme tout un chacun dans la presse que le programme Eagle, installé par Ramesses en Libye, avec l'appui direct du ministère de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait comme but de mettre sous surveillance l'ensemble du peuple libyen pour le compte du régime de Kadhafi. Cosmos avait travaillé comme sous-traitant sur ce programme de janvier 2007 à novembre 2008. Et nous avions fourni les sondes de surveillance dans le cadre de ce programme. Donc, le 30 août, autour des vacances en 2011, j'ai appris dans la presse, comme tout un chacun, que j'avais passé 20 mois de ma vie à travailler sur un programme destiné à mettre sous surveillance un pays. Ça m'avait secoué, d'autant plus que lors de cette fameuse réunion en octobre 2007, où le PDG de Cosmos nous rassurait qu'on avait une code de conduite éthique et que jamais on ne proposerait nos technologies à des dictatures ou des pays qui effreignent les droits de l'homme. Lorsqu'il nous rassurait les yeux dans les yeux en octobre 2007, ça faisait déjà 8 mois qu'on travaillait sur le programme Eagle et qu'on avait déjà fourni des sondes à Ramesses dans le cadre du programme Eagle pour mettre le peuple libyen sous surveillance pour le compte de Kadhafi. Donc c'est juste pour vous montrer un peu combien je me sentais secoué et trahi ce jour-là. Bien sûr, dans la presse, personne ne parlait de Cosmos puisque les gens ne savaient pas que nous étions le sous-traitant qui avait fourni les sondes d'EPI. Juste pour vous donner, les sondes d'EPI, comme le précise le contrat Eagle signé par Thibaut Bechtoile, les sondes d'EPI, c'est comme le moteur d'une voiture, le système de surveillance où on va en extraire les données de Internet et les traiter. Ils ont besoin de sondes d'EPI qui sont branchées sur les réseaux et qui extraient toutes les informations dont on a besoin. Donc, c'est un élément vital du dispositif. C'est le moteur de la voiture, pour simplifier. Donc, ce n'est pas un clignotant ou un pneu, c'est le moteur d'un système de surveillance. Donc, avec cette révélation fin août 2011, j'ai mieux compris ce que je considérais la surréaction de ma hiérarchie par rapport à mon positionnement critique depuis février 2011. Qui m'avait valu, en cette courte période, 3 arrêts de travail à cause de problèmes professionnels.
C'est-à-dire des problèmes professionnels?
J'ai eu beaucoup de ce qu'on peut catégoriser de harcèlement. Par exemple, au mois de mars 2011, mon supérieur hiérarchique me demandait « Est-ce que tu es avec nous ou contre nous ?» Ce qui rappelait un peu les paroles de George Bush au moment de l'invasion de l'Irak. Et donc c'était dans ce contexte très tendu que J'ai essayé de faire la part des choses et de défendre un point de vue critique par rapport à nos activités, tout en me défendant des accusations de vouloir nuire à l'entreprise, etc. Donc ça crée une situation très tendue psychologiquement, surtout quand on cherche chaque petite bête, on va aller le chercher pour vous piéger ou vous coincer. Donc, avec ces relations, le 30 août 2011, j'ai pris la mesure de la situation. 5 semaines après, j'ai écrit à la direction pour dire combien tout cela m'était inacceptable.
Vous écoutez l'atelier des médias sur RFI. Nous sommes avec James Dunn, un citoyen qui a lancé l'alerte sur les activités de son employeur, la société Cosmos. Cette entreprise française a créé des logiciels qui ont permis notamment au régime de Muammar Kadhafi de surveiller Internet dans toute la Libye. James Dunn connaissait très bien les outils que Cosmos commercialisait, mais il ignorait à qui ils étaient vendus.
J'étais responsable de la documentation technique. À ce titre, j'ai documenté l'ensemble des logiciels développés par Cosmos et l'ensemble des équipements vendus. Les guides d'installation, des guides de configuration pour expliquer comment configurer nos produits, etc. Donc, j'avais un vue d'ensemble privilégié à ce titre. En même temps, ce sont des noms de code. Je travaille sur un programme qui s'appelait Eagle. Et on était sous-traitant d'une entreprise française, M6. Donc, il n'y a pas le mot Kadhafi hein, dans le document. Hein. Je ne connaissais pas le client final et j'ignorais totalement à qui étaient destinés ces logiciels et équipements.
Donc, juste si là, je résume avant qu'on en revienne au fait que tu aies créé la direction. 2007, la direction dit « on ne fera rien de contraire à l'éthique ». Alors que ça faisait 8 mois qu'ils avaient commencé à fournir des systèmes de surveillance à la Libye. Février 2011, tu partages sur Facebook cette interview avec le directeur de Cosmos. Février 2011, le post est sur Facebook. Là, les problèmes au travail, le harcèlement commence. Et puis là, fin août 2011, la presse révèle que Amesis, pour lequel Cosmos sous-traitait, a vraiment vendu des systèmes de surveillance à la Libye de Kadhafi.
Oui. En octobre 2011, j'explique à la direction que tout cela m'est inacceptable. J'explique pourquoi. Et je dis que je suis à la recherche d'un autre emploi. Mes collègues me disaient « Mais pourquoi tu l'as dit ?» Mais pour moi, la seule manière où je pouvais rester chez Cosmos, c'était d'afficher ouvertement mon opposition à ce genre de contrat. Et donc c'était pour ma santé mentale que plus qu'autre chose que je le disais ouvertement. Dans mon courrier, je dis, j'ai notifié Cosmos le 3 octobre de mon souhait de quitter l'entreprise. Lorsque nous sommes vus hier pour en parler pour la première fois, de mon éventuel départ, j'ai réitéré les raisons qui fondent une telle décision. Je les rappelle ici. L'activité croissante de Cosmos dans le domaine de l'interception. La direction de Cosmos reconnaît d'ailleurs que cette activité pose un problème d'ordre éthique. La dégradation des rapports entre moi-même et mon chef est survenue ce printemps dans le contexte précis des questions d'ordre éthique que soulève l'utilisation du DPI. C'était suite au lien posté par moi sur ma page personnelle Facebook « Le DPI est-il une arme ?» Le lendemain, une réunion de crise a eu lieu dans nos locaux pour adresser la question soulevée par ce vidéo. Réunion où je me suis vu épinglé, étant le seul employé à avoir posté les liens vers les vidéos incriminant. Procès où j'étais accusé d'être un être aigri, empêtré dans la lutte des classes. Fin de citation. Bien cordialement.
On revient en octobre 2011. Tu envoies cette lettre à la direction. Et là, tu apprends qu'il y a un autre programme. Enfin, tu travaillais sur un autre programme qui s'appelle Asphador et tu apprends qu'il y a un problème aussi avec ce programme.
2 semaines après avoir envoyé ce courrier qui ne mentionne pas la Syrie, je prends pareil, comme tout un chacun, je prends dans la presse un article de Bloomberg où je découvre que le programme Asvedor, sur lequel je travaille depuis 3 ans, est destiné à mettre sous surveillance le peuple syrien pour le compte de Bachar el-Assad. Je dois dire que cela m'avait tellement secoué que j'avais du mal à me remettre. Cependant, à l'intérieur de l'entreprise, on a tenu un discours comme quoi on s'est fait burner par l'intermédiaire Utimaco, avec qui on travaillait sur ce programme, une entreprise allemande, et que pour ne plus se faire berner de cette manière à l'avenir, on allait arrêter la vente indirecte de notre produit d'interception et on allait seulement négocier directement avec des États. Donc, oui, Cosmos cassait du sucre sur le dos de Utimaco à cette époque en interne, pas en externe par contre. Et donc, il y a eu un moment de flottement où je ne savais plus quoi croire ou qui croire, en fait. Et c'était au cours des mois qui ont suivi que j'ai compris petit à petit, par des petits indices, que en fait, tout ça, c'était du flan. Je n'ai eu la confirmation seulement en lisant le compte-rendu de l'audition du PDG de Cosmos en janvier 2013, où devant les enquêteurs au pôle crime contre l'humanité, il avoue être au courant depuis le départ de l'identité du client final. Donc ce discours tenu en interne au sein de l'entreprise était de pur mensonge, de l'aveu même du PDG de Cosmos. Devant les enquêteurs, la section de recherche de la gendarmerie de Paris en janvier 2013. Je n'avais pas ces informations et aveux au printemps 2012, et donc c'était petit à petit que j'ai compris que tout ça c'était du mensonge.
Les doutes et les craintes que James Dunn exprimait depuis 2007 était donc fondée. Son employeur, l'entreprise informatique Cosmos, a participé à au moins 2 programmes de surveillance de masse pour le compte de dictatures sanguinaires. Eagle pour la Libye de Kadhafi et Asvedor pour la Syrie d'Assad. James est bouleversé par ces découvertes. Ses 5 années de combat l'ont laissé à bout de force.
Donc, j'ai quitté l'entreprise le 20 avril 2012, vers 11h du matin, c'était un vendredi. Je suis allé directement chez mon médecin, je ne voyais plus mon écran, je n'arrivais plus à faire quoi que ce soit, je n'arrivais plus à travailler. Donc, j'étais en arrêt maladie à partir du 20 avril 2012 jusqu'à mon licenciement pour faute lourde le 13 décembre 2012. J'étais licencié pour non-respect de mon obligation de confidentialité, non-respect de mon obligation de loyauté et soupçonné d'être à la source de la plainte de la FIDH qui visait à l'époque Cosmos.
Alors juste sur la plainte, donc la FIDH, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, porte plainte contre Cosmos suite aux révélations de la presse sur la vente de ces systèmes Eagle et Asvedor respectivement à la Libye et à la Syrie. Et Cosmos t'accuse d'avoir fourni le matériel sur lequel s'appuie la preuve de la FIDH, c'est ça ?
Dans mon lettre de licenciement, ils utilisent le verbe soupçonner, puisqu'ils n'avaient pas de preuve. Au mois de mai 2012, deuxième semaine de mon arrêt maladie, j'ai téléchargé sur French Leaks des informations, des documents techniques, à la fois concernant notre participation au contrat Eagle pour la Libye et aussi notre participation au contrat Asvedor destiné à mettre le peuple syrien sous surveillance pour le compte de Bachar el-Assad. Donc, Bon, en fait, quand j'ai quitté l'entreprise en avril, en arrêt maladie, ma première réaction, c'était de trouver un psychologue pour m'aider à bien vivre cette situation. C'est le psychologue qui m'a dit « Ah, vous êtes dans un pétrin et il faut vous défendre. » Et il m'a donné le nom d'un avocat. Et donc, je me trouvais avoir un avocat, le maître Claude Katz, qui, il se trouve, par le passé, avait été secrétaire de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et donc, qui avait une très forte proximité avec la FIDH en France. Et donc, c'était vraiment le hasard des choses, puisque j'ai trouvé sur Internet le psychologue me donne le nom de cette personne qui est très proche de la FIDH. Et donc, les choses se sont faites un peu, je sais pas, parfois le hasard fait bien des choses.
Et donc là, au début de cet arrêt maladie, deuxième semaine, tu publies des documents sur ce site FrenchLeaks où on pouvait publier toutes sortes de documents sensibles.
Voilà. FrenchLeaks, des documents sont reçus par des journalistes de Mediapart et transmis à la FIDH. Ils ne sont pas ouverts au public. Donc à partir de ce moment, peut-être pour me qualifier des lanceurs d'alerte, mais il y a eu plusieurs formes d'alerte et de positionnement éthique au sein de l'entreprise au cours des années. Et donc, ce n'est pas une sorte de lanceur d'alerte de dernière minute ou dernière heure.
Alors, je voudrais juste revenir sur le moment où tu publies les documents sur FrenchLeaks. Qu'est-ce que tu as en tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu es soulagé, inquiet?
Inquiet, certes, en dépression réactionnelle, certes, mais pour moi, rien ne m'a assuré que pendant un jour, on allait défoncer ma porte, enlever mon ordi et fouiller l'appart. Donc, c'était pour me protéger en quelque sorte. Parce qu'il faut des preuves pour se protéger. Et aussi parce que je considérais que cette situation posait des questions éthiques par rapport aux activités de surveillance. Il ne fallait pas que ça reste derrière mon canapé. Pourquoi j'ai agi ainsi? Pourquoi mes collègues n'étaient pas secoués à ce point par ces révélations? Pourquoi il y a eu un silence qui s'est installé dans l'entreprise avec ces révélations? C'est une question peut-être de personnalité, mais aussi de formation, puisque au sein de la R&D, le département de recherche et développement, j'étais la seule personne diplômée en philosophie et lettres, et la seule personne qui n'était pas d'informaticien. Je lisais tous les jours à l'époque le journal de Thoreau, le père de désobéissance civile.
Henri David Thoreau, La désobéissance civile, dit par Vincent Planchon pour audiocité.net. Je crois que nous devrions être hommes d'abord et sujets ensuite. Il n'est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. La seule obligation qui m'incombe est de faire bien. On a dit assez justement qu'un groupement d'hommes n'a pas de conscience. Mais un groupement d'hommes consciencieux devient un groupement doué de conscience. Doué de conscience. Doué de
conscience. Doué de conscience. L'atelier des médias.
Donc, un peu difficilement avoir ce genre de lecture et retourner le lendemain travailler sur un système de surveillance de masse pour Assad. Donc, peut-être c'est de par mon parcours et ma formation que c'était à moi d'être secoué par ces situations. Et c'était à moi d'afficher ouvertement au sein de l'entreprise un positionnement éthique, critique des activités de l'entreprise. Et donc, c'était à moi de recevoir toutes sortes de harcèlement au sein de l'entreprise à ce moment critique en 2011. Et c'était à moi de télécharger les documents sur FrenchLeaks. À partir de 2012, je me trouvais donc à l'extérieur de l'entreprise. J'étais sous antidépresseur. J'étais dans un sale état. Pour ma fille, c'était très inquiétant. Elle ne m'avait jamais vu malade. Et là, elle me voit dans tout ce pétrin. À l'époque, elle avait 15 ans, 16 ans. En décembre, j'étais licencié pour faute lourde, ce qui est plus grave que faute grave. J'ai une lettre de licenciement où les noms de Kadhafi et Assad figurent. Donc c'est très étrange comme lettre de licenciement.
Comment ça se fait qu'il y ait ces noms sur cette lettre ?
Puisque il y a tout un paragraphe qui mentionne la plainte de la FIDH et les soupçons à mon égard.
Donc, si je voulais résumer de manière un peu stupide ton lancement d'alerte, entre guillemets, si on peut employer ce mot, en 2009, tu copies des documents, tu les caches chez toi. 3 ans plus tard, quand tu as eu, suite à plusieurs indices en interne et aux révélations de presse, la confirmation ou la certitude que l'entreprise pour laquelle tu travaillais fournissait des systèmes de surveillance à des dictatures, tu as publié ces documents. Décembre 2012, tu es licencié. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ?
À ce moment-là, évidemment, je suis occupé avec mon avocat à préparer ma défense auprès des prud'hommes. Défense qui sera victorieuse puisque nous avons obtenu l'annulation du licenciement sans cause réelle et sérieuse quelques années plus tard. Il faut se mettre dans le contexte. En janvier 2013, je suis donc licencié pour faute lourde et dans une situation extrêmement difficile au niveau matériel et psychologique, etc. Dans le cadre de la plainte de l'FIDH, le PDG de Cosmos, Thibaut Bechtol, est entendu par la section de recherche de la gendarmerie de Paris. Et par ses propres voeux, il était au courant du destinataire final, c'est-à-dire Assad, dès le départ du contrat Asvedor signé en novembre 2009. Donc, le 23 mai 2013, je suis entendu en tant que témoin au pôle crime contre l'humanité, 10 jours avant les révélations Snowden. Donc c'est un peu bizarre comment les choses se sont chamboulées en fait. Personne ne parle de la surveillance de masse à l'époque. Quelques jours après donc, mon audition, soudain la surveillance de masse devient le sujet sur la lèvre de tout le monde. C'était pour moi un grand bonheur d'apprendre que quelqu'un s'en souciait. Ça a eu le mérite de mettre au centre la question de la surveillance de masse, pas seulement dans le cadre des dictatures, mais aussi de nos régimes démocratiques. Et j'étais doublement heureux parce que pas seulement Snowden était ce lanceur d'alerte-là, mais la manière qu'il était lancé de l'alerte, son intégrité, son souci de bien faire, je trouvais ça formidable. Et donc, évidemment, à partir de ce moment, les journalistes s'intéressaient au cas français concernant la Libye et la Syrie. Et donc, je me trouvais au centre de cette affaire-là, médiatiquement à partir de ce moment-là. Donc, the rest is history. La plainte contre Cosmos a débouché sur l'ouverture d'une information judiciaire en 2014. Et en avril 2015, Cosmos, une année plus tard, a été mis sous le statut de témoin assisté.
Petite précision juridique, le statut de témoin assisté est le préalable à une éventuelle mise en examen de Cosmos, une mise en examen dans le cadre de cette enquête qui est menée par un juge d'instruction du pôle crime contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris. Une enquête qui repose, rappelons-le, sur une plainte de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la fameuse FIDH, informée par le lanceur d'alerte James Dunn.
Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu as décidé de dire dans la presse « Moi, James Dunn, j'ai envoyé des documents à Mediapart à French Leaks?
C'était assez tardivement. J'étais licencié pour faute lourde en décembre 2012. Avec mon avocat, j'avais fourni des documents. French Leaks, c'était la première semaine de mai 2012. Mais avec mon avocat, nous avons fourni un dossier à la FIDH plus complet. Et nous avons fourni le même dossier à la justice française. Donc c'est pour cette raison que j'étais convoqué au pôle crime contre l'humanité pour le mois de mai 2013, donc quelques mois après mon licenciement. La première fois que j'ai parlé à la presse, c'était en fait une rencontre avec une journaliste du Parisien dans les bureaux de mon avocat, car la rencontre a été organisée par mon avocat et il m'en a informé après l'avoir organisée. Donc j'ai trouvé un peu devant les faits et au départ j'ai voulu rester anonyme. Et donc on m'a dit, si vous restez anonyme, ça n'aurait pas le même impact et aussi votre anonymité, ça va durer 2 semaines. Donc ce n'était pas la peine. Donc un peu à contre-cœur, j'ai accepté de dire, voilà, je suis James Dunn et j'ai témoigné à visage découvert. Sauf j'ai demandé que la photo dans le Parisien soit floutée, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dans la rue me reconnaître. Donc c'était pas une volonté d'aller vers la presse, ça s'est fait tout seul par la suite. Le lendemain, j'ai été contacté par France 24 et donc j'ai rencontré le reporter Alexandre Renard, qui s'est trouvé à Tripoli avec un cortège lors d'une des visites de président Sarkozy et qui avait gardé un regret de cette visite puisque elle s'est montée en haut d'un immeuble pour filmer la rencontre. Et en descendant, quelqu'un lui a pris par le bras et lui a montré le centre d'écoute. Mais elle n'avait pas le temps, puisqu'elle suivait le cortège, elle n'avait pas le temps de faire autre chose. Et donc, elle avait gardé une sorte de regret par rapport à ce moment. Et donc, dès qu'elle a lu mon témoignage dans le Parisien, elle m'a contacté le lendemain. Donc, et on s'est vus. Et donc, ces deux rencontres, ces deux premiers articles, qui étaient un article dans le Parisien et un interview pour France 24 Télévision, m'ont valu deux procédures pour diffamation que nous avions gagnées par la suite, mais après beaucoup d'efforts et d'investissements.
Donc là, on est en 2013. À quel moment tu admets publiquement avoir partagé des documents avec la FIDH et qu'est-ce qui te décide à le faire, à le reconnaître publiquement?
Pour moi, ce n'était pas quelque chose de si important que ça. On s'est tués pendant les années 2013-2014 puisque j'avais des procédures et je n'avais pas envie de compliquer ma situation en admettant certains faits. Dans ma lettre de licenciement, il y a le mot « soupçon ». Je suis soupçonné d'être la source de la plainte de la FIDH. Et c'était bien de le garder comme ça, pour des raisons de procédure. Et, je ne me souviens pas exactement le premier moment de l'avoir dit ouvertement, mais c'était certainement après 2015, c'est-à-dire après les jugements et les jugements en appel des prud'hommes. Les deux procédures contre moi pour diffamation, j'ai gagné en janvier 2016.
Donc c'est Cosmos qui a porté plainte contre toi pour diffamation. Pourquoi ? Parce que tu avais parlé de ça dans la presse ?
Oui, c'était un entretien avec pour France 24 et un article dans Le Parisien. Donc, les juges ont considéré qu'il n'y avait pas de diffamation. Et vu l'état d'avancement de l'information judiciaire à ce moment-là, c'était difficile de toujours se poser en victime pour Cosmos. Ce régime de diffamation est problématique car en fait c'est un système qui a peu de frais pour mettre une entreprise de vous calomnier dans tous les articles de presse vous concernant en disant nous avons porté plainte contre M. Dunn pour diffamation. Et donc pendant des années les gens vont lire ça dans la presse chaque fois qu'il y a un article au sujet de surveillance de masse. Et donc, quand vous gagnez dans l'indifférence générale en janvier 2017, il n'y a pas d'article dans la presse pour dire qu'en fait, il n'y a pas eu de diffamation. Et donc, en fait, ce régime de diffamation permet aux entreprises qui ont les moyens de diffamer des lanceurs d'alerte à peu de frais. D'autant plus que les juges n'ont pas cru bon de condamner Cosmos à payer mes frais de défense. Donc c'était pour ma poche. Donc c'est une étrange notion de la justice, un étrange régime. Et voilà, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça.
Donc est-ce qu'on peut dire que affaire Cosmos, elle est derrière toi?
Elle est derrière moi, mais pas tout à fait, puisque votre micro est posé devant moi. Il y a ce côté témoignage aussi. Si on fait tout ça, c'est bien d'en expliquer pourquoi. C'est bien de se rappeler les vrais enjeux qui aujourd'hui sont... la législation française, les lois de programmation militaire, les lois renseignement qui n'ont fait que empirer depuis 2009, qui ont fait que aujourd'hui cette question de surveillance, non seulement auprès des dictatures, mais dans nos régimes démocratiques, reste toujours aussi actuelle. Snowden est toujours exilé à vie en Russie pour avoir été un citoyen qui a le courage de dire ce qui s'est passé dans son pays, le pays de la liberté.
Depuis janvier 2016, James Dunn a retrouvé un travail qui lui permet de se reconstruire matériellement et psychologiquement. Il dit ne rien regretter de son combat pour la vérité et la morale, mais il constate avec inquiétude que la surveillance de masse ne cesse de se renforcer, que ce soit dans des pays démocratiques comme la France ou dans des régimes dictatoriaux.
C'était Rencontre avec James Dunn, citoyen et lanceur d'alerte, une émission de Léo Caravagna, Simon Decreuse et Ziad Malouf, en coulisses Mathilde Saliou et Camille Deloche. Salut à toutes et à tous.
Si le gouvernement d'un régime qui effreint certains droits ou valeurs considérées comme universelles nous propose un important contrat, à quelles valeurs et exigences se tenir? Quel est alors notre code de conduite éthique?
Atelier@rfi.fr